ou Europe 1.
Et c'est l'heure des grandes voix jusqu'à 19h comme chaque soir dans ce studio bien sûr. Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric David Lifop, bienvenue.
Bonsoir.
Et Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, bienvenue à tous les trois. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Merci d'être à mes côtés ce soir pour revenir bien sûr sur la colère des forces de l'ordre. On l'a entendu, on l'a vu aussi un peu partout en France, des pots de menottes devant, sous les fenêtres de l'Elysée, entre la place Beauvau et l'Elysée ce matin. On va y revenir dans un instant. Une réaction également ce matin dans un commissariat de Villeneuve-la-Garenne, la présidente du Rassemblement National. Écoutons.
Il est évident qu'il n'est pas à sa place. Et il n'a jamais été à sa place en réalité. Et il l'est encore moins aujourd'hui. Il lance quand même la suppression de méthodes d'interpellation sans mettre en place des méthodes d'interpellation alternatives. Tout cela crée un danger, mais encore une fois un danger pour nos forces de l'ordre, mais également un danger pour la population, car les forces de l'ordre sont là pour protéger la population.
Il, c'est bien sûr Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui reçoit encore les syndicats à l'heure où nous parlons. Il est sous pression, peut-il tenir? C'est une des questions évidemment qui se posent dans le vacarme actuel. Alain Acco, qu'est-ce qui se joue en ce moment et comment cela avance au regard là, des dernières heures entre des policiers très remontés et un ministre qui a d'une certaine manière, qui les a heurtés?
Oui, ils ont le sentiment d'avoir été trahis pendant deux ans, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Christophe Castaner a montré des preuves d'amour à l'égard de ses policiers. Il les a soutenus, il a minimisé, voire nié parfois les violences qui pouvaient leur être attribuées, les nombreuses blessures pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils avaient vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qui les soutenait. Et là, d'un seul coup, ils ont vraiment le sentiment que cette même personne, ce premier flic de France, comme disait Manuel Valls il y a quelques instants, les avait trahi. Alors, c'est un sentiment qui n'est pas forcément, qui est très émotionnel. Quand on leur fait lire précisément les mots du discours, ils en découvrent des parties entières qu'ils n'ont pas entendues. Parce qu'aujourd'hui, les mots de Christophe Castaner sont inaudibles. Les policiers ont retenu certains mots qui les ont heurtés et oublient les autres.
Ouais. Frédéric Dabi, Michel Cotta, l'électricité est dans l'air, il faut réagir très vite. Aujourd'hui, les policiers en appellent directement à Emmanuel Macron pour sortir de cela. Michel Cotta.
Je ne suis pas sûre qu'il faille réagir si
c'est vite question,
que ça.
C'est une question.
Non, mais je ne suis pas sûre, par exemple, que Castaner ait bien peaufiné son discours, si vous voulez, ou attendu avant de le délivrer. Parce qu'effectivement, il y a deux ou trois expressions maladresses qui apparaissent nettement. Mais c'est vrai qu'il est sur une pente, c'est sur une ligne de crête difficile, parce que je regardais par exemple le débat au Sénat. Alors on voit à la fois la députée le sénateur du président du groupe communiste qui dit que l'impunité des policiers est impossible, et à la fois la droite qui dit il faut rompre. Alors, c'est vraiment
des deux côtés de l'échiquier, de tous les côtés de l'échiquier politique, il est la cible clairement.
Il cède aux sirènes du communautarisme. Bon, alors c'est vrai qu'il est vraiment pris entre deux. Donc voilà, il faut retenir sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, et peut-être a-t-il au contraire parlé trop tôt.
C'est ce qu'il commence à dire d'ailleurs, Frédéric Dabi, là cet après-midi, Alain Acco nous le redira, mais il commence à faire une forme de mea culpa.
Oui, en plus tout ça s'inscrit dans un contexte d'opinion très compliqué pour Christophe Castaner, en décalage avec ce que vous venez de dire sur son code d'opinion dans la police. Pendant la période des Gilets jaunes, il a été extrêmement fragilisé, avec le sentiment qu'il était incapable d'assurer l'ordre. Il a retrouvé des couleurs chez les Français pendant le confinement, où on a l'impression que c'était plutôt bien organisé. Et là, de nouveau, dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, où on a vu qu'il s'est effondré en termes de popularité, notamment à gauche, notamment chez les sympathisants du RN et de la France insoumise. C'est clairement un ministre fragilisé, alors qu'on sait que c'est un élément fondamental de l'édifice macronien.
Bien
c'est
sûr.
Un des premiers régalien, macroniens.
Bien sûr.
Et dans un contexte où les Français sont extrêmement quand même polarisés, bien sûr sur les questions économiques, mais également sur les questions de sécurité.
Alain Acco, on sent qu'il y a une étape de mea culpa, enfin en tout cas on va vers un mea culpa du côté de Christophe Castaner.
Hier, il a reçu les syndicats qui ont le plus de pouvoir de nuisance dans la police, les trois plus gros syndicats de gardiens de la paix, c'est le gros des troupes. Et en sortant, ces syndicalistes, ces chefs syndicaux, nous disent effectivement qu'ils ont entendu le ministre concéder une erreur sur le terme de soupçon avéré qui devrait justifier une suspension systématique. Ils ont cru entendre dans sa bouche qu'il réfléchissait à une porte de sortie sur la clé d'étranglement qu'il a fallu supprimer, mais peut-être qu'on va trouver une autre moyen, une autre technique qui ne porterait pas exactement le même nom pour faire passer la pilule et pas se renier complètement publiquement. Mais c'est là encore une ligne de crête sémantique qui va être extrêmement difficile pour lui.
Parce qu'un tel rétropédalage... Votre invité d'hier disait... juste avant nous, on ne demande pas la démission de Christophe Castaner.
Sauf qu'il disait, Yves Lefebvre, du syndicat LGBT Police Info, oui, mais qui disait qu'il était indigne.
Une grande
en même
agressivité,
temps.
Mais à la fois, il n'est pas interdit de penser qu'il puisse rester. Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas sûre. Mais je pense quand même que les syndicats, les syndicats reçus aujourd'hui ont été. Je trouve encore plus ouvert et proposant. Une sorte de Grenelle.
Je voudrais qu'on y revienne dans un petit instant avec vous trois, parce que évidemment c'est le gros sujet du moment, et puis il y a une nouvelle manifestation demain et une nouvelle manifestation aussi en soutien en mémoire de George Floyd, et donc le rapprochement qui est fait avec Adama Traoré. Et la question aussi, c'est de savoir comment fonctionne le duo Castaner-Nunez. Hein, on va regarder un petit peu de plus près avec vous les grandes voix jusqu'à 19h. C'est dans votre grand journal de ça. Oui, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec les grandes voix. Dans ce studio, Alain Accot, Michel Cotta, Frédéric Dabi, pour revenir à la fois sur Castaner qui reçoit à l'heure actuelle encore les forces de l'ordre. Alain Accot, ils en sortent là à l'instant et on a quel son de cloche ?
Le dernier à sortir, c'était David Lobars, le représentant du syndicat des commissaires, qui vient de déclarer à la sortie que le ministre avait reconnu avoir commis une faute, et notamment la faute dont on parlait tout à l'heure sur les soupçons avérés. Et puis en ce qui concerne la technique d'interpellation, il n'a pas été jusqu'au bout, mais il nous annonce que Christophe Castaner va écrire ce soir aux policiers directement pour s'expliquer sur la technique d'interpellation qu'il faudra utiliser, ou qu'on pourra en tout cas utiliser, et le ministre l'aura garanti qu'il n'y aura pas de zone grise, que ce sera clair et net. Les bagarres et les interpellations ne sont pas toujours claires et nettes.
C'est un mea culpa en bonne et due forme,
oui,
Frédéric Dabi.
Et Nathalie, ce n'est pas le premier. Si je compte bien, c'est le troisième. La boîte de nuit, on peut en parler au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Au moment de l'intrusion à l'hôpital de la Pitié, à celle près de Trier, il avait un peu rapidement qualifié les faits d'invasion, je pense, d'un service d'urgence. C'est une forme de fragilisation, je pense, du ministre Castaner. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, il ne peut pas compter sur Laurent Nunez, dans la mesure où Laurent Nunez est très peu connu des Français. On n'est pas du tout sur le tandem Pasqua-Pandro qu'on nous a vendu, où c'est vrai que l'un pouvait rééquilibrer l'autre et si je puis dire, faisait du bien l'un l'autre dans le regard qu'on avait les Français. C'est quand même un ministre qui est très fortement fragilisé. C'est compliqué dans le contexte où il y a une question d'ordre et de sécurité qui inquiète les Français.
Ouais, mais ce secrétaire d'État, quand même, quand il corrige le lendemain, il a aussi il a un poids et pas négligeable, Michel Cotta. Oui, parce qu'il corrige le lendemain, comme Édouard Philippe qui est envoyé à Évry.
D'autant que lui, il est dans le métier.
Exactement.
Non, mais, à mon avis, tout le monde a senti immédiatement qu'il y avait une sorte de dérapage. Donc, Édouard Philippe est monté au créneau en remerciant les policiers, en disant « jamais je ne laisserai dire que… » etc. Et Laurent Nunez a fait la même chose. Et d'ailleurs, Manuel Valls, tout à l'heure, ex-premier flic de France, comme il dit, a dit la même chose. Ouais. Mais il faut dire qu'on ne peut pas non plus oublier le contexte. Je reconnais qu'il y a un amalgame absolument fou entre ce qui s'est passé en Amérique et ce qui se passe avec la fratrie Traoré, puisque c'est une fratrie. C'est vrai qu'il faut aussi tenir compte
Alors
de
justement,
ça.
Écoutons ce que nous dit Mouna, c'est une auditrice, et Alain, je vous redonne la parole sur le duo Castaner-Nunez dans un petit instant. Bonsoir Mouna, vous nous appelez de Paris, bienvenue.
Merci.
Comment vous observez-vous tout cela ?
Alors, comme j'étais particulièrement énervée par l'attitude de Castaner, qui pendant les manifestations des Gilets jaunes, il semblait nier les violences policières qui étaient pourtant manifestes. Donc, je ne pouvais que saluer ensuite sa prise de position plus récente, parce qu'il existe clairement du racisme au sein de l'institution policière et des cas de violence. Après, je pense qu'il faut aller plus loin en créant un véritable contre-pouvoir, à savoir une autorité administrative indépendante, véritablement efficace, Si, et surtout rendre plus lourdes les réponses pénales.
Ah oui, c'est une voie.
Donc c'est une contestation de l'IGPN, de l'Inspection générale de la police.
C'est une insuffisance.
Il faudrait quelqu'un. À votre avis, il faudrait une institution indépendante du gouvernement pour juger des cas de racisme dans la police quand il y en a.
Oui, c'est ça. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est ce que dit Mouna,
extérieur
à la police.
Comme ça se passe en Grande-Bretagne, par exemple, où effectivement, il y a une institution extérieure à la police, avec des magistrats, avec d'anciens policiers également, mais qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur.
Voilà, c'est Mouna qui nous disait donc combien elle avait apprécié, merci à vous, ce changement de braquet de Christophe Castaner, passer de complaisant à
avant le mea culpa.
Voilà, parce que ça date d'il y a 5 minutes.
Vous voyez comme c'est difficile.
Mais bien sûr,
c'est difficile. On est en train, faut tenir compte des deux pressions. Voilà. Alors, il y en a une qui est une pression de la République, en quelque sorte, parce que la police, ça fait partie de la République, c'est un instrument vital de la politique. Mmh. Et l'autre qui fait partie, c'est un instrument, c'est un problème sociétal grave que la France connaît et connaîtra, à mon avis, dans les mois qui viennent.
Un mot, Alain Accaud, parce que vous les connaissez bien pour travailler et être chef du service police-justice d'Europe 1. Nunes Castaner, aujourd'hui, c'est vrai que Nunes connaît très bien ses troupes. Il maîtrise très bien le terrain. On est dans une rupture du duo.
Une rupture, non, elle n'est pas affichée, mais on l'aperçoit très clairement quand Laurent Nunes est venu sur Europe 1 il y a quelques jours, un matin. Ce qui m'a énormément frappé, c'est alors qu'il avait toujours affiché, depuis qu'il est en poste, dans chaque interview, il citait Christophe Castaner, il citait le ministre de l'Intérieur, il se mettait sous le ministre de l'Intérieur, il affichait une loyauté sans faille. Là, il n'a pas affiché une déloyauté. Il n'a pas cité une seule fois le nom de Christophe Castaner. Il n'a pas cité une seule fois, ne serait-ce que la fonction de ministre de l'Intérieur. Il a parlé du ministère et il a dit « je » un nombre incalculable de fois en disant « je prendrai mes responsabilités ». J'ai la faiblesse de penser que je suis très aimé par les policiers et les gendarmes. Enfin, clairement...
C'est pas la rupture, mais en tout cas,
on peut pas non plus nier qu'il y ait des problèmes de racisme dans un minimum, sans doute, ils sont tout à fait restreints. C'est pas l'ensemble de la police, mais on peut pas nier tout de même qu'il y ait des problèmes de racisme. La preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs faits qui ont été justement soumis à l'IGPN. Donc, ça n'est pas condamner l'ensemble des policiers. Que donc condamner juste certains.
Mais voilà, et ça a été dit, rappelé, reprécisé de toute façon. On va reparler évidemment de Christophe Castaner et dans le remaniement aussi à venir avec vous, Frédéric Dabi, parce que c'est aussi une des questions. Typiquement, lui qui est à ce poste et qui est malmené, est-ce que ça peut faire partie? On parle de ce remaniement dans une petite seconde avec vous, les grandes voix, dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Et c'est votre grand journal jusqu'à 19h sur Europe 1 avec les grandes voix. Et cette question, évidemment, comment Emmanuel Macron va pouvoir se réinventer? Crise sanitaire, crise économique, Frédéric Dabi, municipal, ça sent évidemment très mauvais pour le dimanche 28 juin. La colère là, de la police. Écoutez ce qu'en dit Alain Main, qu'il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Le remaniement quand? Avant l'été? Après? Écoutons.
Qu'est-ce qu'il a? Il a la dissolution, il ne va pas la faire, on a des expériences passées. Le référendum, il ne va pas le faire, on a l'expérience passée. Grâce à Jacques Chirac, on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une dissolution ou un référendum. Donc, après, il reste le changement de gouvernement, c'est tout.
Voilà, la palette n'est le choix, il n'y a pas de choix en fait.
Je partage complètement ce qu'a dit Alain Minc. Déjà, il faut bien dire qu'on est tous passionnés par un probable ou futur vrai-faux remaniement. Les Français n'en parlent absolument pas. Ils sont polarisés sur l'inquiétude sanitaire et surtout sur les conséquences économiques de la crise. Et c'est vrai qu'un remaniement, dans le cadre d'un quinquennat, c'est un fusil qui a très très peu de coups. Il faut jouer l'effet de surprise. Et là, c'est vrai qu'on attend un remaniement. Est-ce qu'il est obligatoire? La défaite d'En Marche, elle est là depuis le 15 mars. Il y a peut-être Strasbourg qui va être sauvé encore. Et puis, il faut que les Français voient une cohérence à ce remaniement. Quel périmètre? Est-ce que c'est une inflexion de sa politique? Et puis, la question centrale, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre le luxe de se débarrasser d'un Premier ministre ultra populaire qui connaît un véritable état de grâce et qui occupe pour lui un pan très important de l'échiquier politique.
Il y a évidemment la question des hommes, il y a la question du cap aussi, Michel Cotta, bien sûr.
Oui, mais c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire changer de cap maintenant, au moment où on a attribué, à juste titre, hein, des milliards aux chômeurs, aux entreprises, où on a fait voler le plafond de la dette de la part de gens qui n'étaient pas élus pour ça. Donc là-dessus, au fond, Philippe et Emmanuel Macron, ils sont ensemble dans l'esprit des gens. Ils sont ensemble, ils ne sont pas séparés. Alors, changer de cap, mais alors, que faire ? Reprendre la réforme des retraites ? Bon appétit, hein, parce que reprendre la réforme des retraites 15 mois avant les élections, l'élection présidentielle civile. Donc changer de cap, alors qu'il a déjà, quelque part changé de cap sur l'économie, sur l'ensemble. Il me semble que c'est déjà fait. Alors se réinventer, c'est vrai que c'est tout le problème d'Emmanuel Macron, parce que on ne sait jamais exactement qui est Emmanuel Macron.
Bien sûr. Alors se réinventer, il y en a un qui avait traîné un peu sur le dossier, se réinventer, qui avait créé la surprise, c'était Nicolas Sarkozy en 2010. Nicolas Sarkozy qui rencontre Emmanuel Macron, on l'a su pendant la crise souvent, et puis qui a rencontré aussi la semaine dernière Édouard Philippe à Matignon.
C'est vrai que c'est une très bonne référence. Qu'est-ce qui se passe en 2010 ? Il y a 10 ans, en mai-juin, il y a des rumeurs de remaniement.
De Fillon,
Nicolas Sarkozy, clairement maître des horloges, maître du temps, se débarrasse entre guillemets de trois ministres enquistés dans des affaires au mois de juin, ne fait plus rien jusqu'au mois d'octobre. Bon, il choisit finalement de garder François Fillon qui bat par KO Jean-Louis Borloo. Et bon, même s'il ne peut pas créer un nouveau cap, il se prépare à la fin son quinquennat. Est-ce qu'Emmanuel Macron est pressé de remanier à court terme sous la pression des observateurs et crée une surprise, le précédent de 2010 peut être intéressant pour lui.
Voilà, c'est vrai que Michel Cotta.
On entend beaucoup dans la majorité, surtout chez quelques députés, dire attention, s'il ne fait pas ce remaniement en juillet ou avant la fin, avant la fin de l'été, alors ce sera comme Sarkozy avec Fillon, il le gardera. L'exemple Fillon-Sarkozy.
C'était Jean-Louis Borloo qui avait dans la tête à l'époque de Nicolas Sarkozy.
Mais finalement, au fond, c'est dans la tête d'un certain nombre de gens de la majorité, mais on s'aperçoit bien que le groupe majoritaire est en morceaux. Donc il doit y avoir des avis divergents. Mais une partie du groupe majoritaire, c'est sûr, pousse Édouard Philippe à la sortie, mais quand quelqu'un a près de 70% d'opinion favorable, c'est difficile, il est difficile à pousser vers la sortie.
La question, c'est aussi parce que il y a cette majorité dont le sort est scellé, entre guillemets, à Paris, à Marseille, dans ces municipales là qui arrivent le 28 juin, avec des marcheurs inexistants, à minima avalés par les Républicains, Michel Cotta, Frédéric Dabi. Ça, c'est quand même des signaux, normalement.
Mais on savait qu'il n'y avait pas d'élus.
Il n'y a pas de surprise, bien sûr.
Il n'y avait pas de passé. Il n'y a pas de passé pour eux, pour La République En Marche. Donc c'était difficile, effectivement, de se faire élire sans pactiser, soit à gauche, soit à droite. Oui, mais on remarque qu'ils ont plutôt pactisé vers la droite.
Ils ont noué des alliances avec seulement, dans 13% des cas, avec la gauche. On est loin du en même temps macronien. C'est vrai que l'élection municipale, l'élection de la stabilité, l'élection où ne sort pas les sortants, est la pire élection pour un parti si jeune qui n'avait pas d'élus locaux. Maintenant, voilà, il reste d'autres élections qui seront également compliquées. Et puis, on a quand même, un déséquilibrage de la promesse macronienne qui clairement regarde vers la droite. Et qui est l'homme lige ou celui qui fait le point de jonction avec toutes ces personnes de droite ? Édouard Philippe, 75% de bonnes opinions chez les sympathisants LR.
Oui, on y revient toujours, décidément. Bon, merci beaucoup, les grandes voix du vendredi, Michel Cotta, Frédéric Dabi et Alain Acco, chef du service police justice d'Europe 1, qui nous a également accompagnés. Merci à vous trois. Europe 1.